94.3. Bonsoir chérie.
Bonsoir.
J'arrive du travail. Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc?
Non. Ah chérie, j'arrive. Ce qu'on sort pour, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh ben.
Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur Cheese qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et aînés solidaires ouvrent le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants, tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et aînés solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement.
Bonjour et bienvenue à cette troisième émission de Tête de Hockey. Mon nom est Félix Duchesne, je suis en compagnie de mon co-animateur
Raphaël Côté-Rioux.
Et on est ensemble encore une fois pour un autre dimanche soir. On va vous parler bien évidemment de hockey. Je veux glisser un petit mot parce que si vous l'écoutiez cet après-midi, les Remparts de Québec jouaient au Centre Vidéotron à domicile. C'était contre une équipe qui s'appelle les Islanders de Charlottetown. Ça s'est terminé en prolongation par le compte de 2-1. C'est une sixième victoire de suite pour les Remparts de Québec. Malheureusement, Théo Rochette n'a pas pu compter aujourd'hui parce que, écoutez bien, dans les cinq derniers matchs, il a compté 2 buts à chaque partie. C'est un exploit, bien évidemment, mais n'a pas été capable de répéter justement ce doublé. C'est sur des buts de Komarov et Roy que les Remparts ont gagné cet après-midi.
Puis aussi, en ce moment, on a 2 parties de la Ligue nationale de hockey en cours. On a les Bruins de Boston qui ont une saison tout simplement incroyable contre les Hurricanes de la Caroline qui, eux aussi, ont une excellente saison, premier dans la division métropolitaine. Mm-hmm. Puis c'est présentement 2-0 pour les Hurricanes au début de la troisième période. Les Bruins qui ont perdu 2 parties de suite pour la première fois de la saison. Là, c'est 2-0 pour les...
exceptionnel là, du côté de Boston.
En effet, 2 défaites de suite, par contre. C'est 2-0 pour les Hurricanes en début de troisième période. On
peut-être
s'en ligne peut-être
troisième.
Pour une troisième. Mm-hmm. Donc, on verra. Sébastien Aho et Paul Stachny qui ont les buts pour les Hurricanes. Puis la deuxième partie qu'on a ce soir, c'est les Capitals de Washington contre les Maple Leafs de Toronto.
Ouais.
Ça aussi, c'est le début de la troisième période. Présentement 4-1 pour les Maple Leafs. Nicholas Backstrom avec le but pour les Capitals.
Ah ben.
Ouais. Michael Bunting, Morgan Riley, William Nylander et Pierre Engvall avec les buts pour les Leafs.
Il y a un nom que tu n'as pas mentionné. On va en parler un peu plus tard en détail. Austin Matthews, comme j'ai dit, on vous donne plus de détails plus tard. On vous a parlé des Canucks beaucoup la semaine dernière. Une situation, je pense qu'on peut dire, c'est triste pour Bruce Boudreau, ce qui est arrivé. Mm-hmm. Mais on a été parfait dans les timings parce que Rick Tocchet est entré en poste dans les heures après ou au tout début de cette semaine. Mm-hmm. Et puis, on continue de vous parler des Canucks. Il y a eu une signature assez importante de leur côté. C'est Andrei Kuzmenko. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Raphaël, c'est qui ce joueur?
Andrei Kuzmenko, c'est un attaquant russe qui a signé avec les Canucks cette saison.
Ouais.
Auparavant, il jouait dans la KHL, la Ligue professionnelle de hockey en Russie, où d'ailleurs c'est un attaquant d'impact, mm-hmm. tout simplement, un excellent attaquant.
Ouais.
La saison avant qu'il vienne dans la Ligue nationale avec les Canucks, on parle d'une saison de 20 buts, 33 passes, donc 53 points.
Mais en 45
parties,
c'est
ça. Ce qui est excellent. 1,18 points par match, donc mm-hmm. Les Canucks signe ce joueur, vient dans la Ligue nationale, contrat d'un an.
Ouais.
Apparemment, sa saison va très bien dans la Ligue nationale. Là, on parle de 21 buts et 22 passes en 48 parties, donc 43 points en 48 parties, ce qui est une excellente saison. Donc, faut croire qu'Andrei Kuzmenko aime son temps à Vancouver puisqu'il a signé une extension de 2 ans d'une valeur de 11 millions de dollars, donc 5,5 millions par année pour les 2 prochaines saisons. Donc,
5,5
il reste à Vancouver.
Millions, je veux te questionner sur ça. C'est un contrat, j'ai envie de dire... qui est dans la moyenne. C'est pas un joueur de premier plan, mais c'est pas non plus un joueur de 3 ou 4e trio. C'est vraiment le classique joueur de 2e trio qui est important pour les Canucks. Est-ce que c'est un contrat qui est trop cher pour lui, pas assez? Comment tu vois ce contrat?
Non, moi je trouve que c'est un bon contrat. Kuzmenko, sa première saison dans la Ligue nationale, presque à un point par match. Ouais. C'est très bien. Comme mm-hmm. tu dis, c'est un bon joueur dans le top 6 des Canucks.
Ouais.
Puis en plus, je pense que c'est un contrat qui l'avantage à long terme. Je t'explique pourquoi. Un contrat de 2 ans, Andrei Kuzmenko, il a 26 ans présentement. Il est encore dans son prime, si on veut.
Ouais.
Il est encore jeune.
Ouais.
Il a encore le temps de faire un impact dans la Ligue pour une équipe. Donc, signe un contrat de 2 ans qui l'amène ensuite de ça sur le marché des joueurs autonomes à 28 ans,
ouais.
ce qui est une excellente situation pour lui. S'il continue son bon jeu comme ça, à être près d'un point par match pour les 2 prochaines années, il va faire beaucoup plus que ça sur le marché des joueurs autonomes. Donc, c'est une situation à suivre.
Ça fait un beau lien aussi pour la prochaine nouvelle parce que en signant Kuzmenko, les Canucks nous donnent un peu un avant-goût des changements qui s'en viennent. On le sait, leur capitaine Bo Horvat va probablement changer d'adresse d'ici la date limite des transactions ou sinon à la date limite des transactions. On a Brock Besser, un autre attaquant. On a JT Miller qui, lui, on le sait pas trop. Là, des fois, je me mélange souvent aussi avec lui puis Brock Besser parce qu'il y en a qui demandent des échanges. Et on sait qu'à Vancouver, il y a eu finalement la finale là, qui a été contre les Bruins de Boston en 2011, si je me trompe pas. Mais ça va pas très bien là, dans les dernières années du côté de la Colombie-Britannique avec nos chers Canucks. Mais justement, là, il y a un journaliste qui couvre cette équipe qui, lui, pense avoir vu dans le jeu du directeur général de Vancouver. Comment est-ce que tu envisages les prochaines semaines au niveau des échanges? J'ai pas envie d'utiliser le terme reconstruction, c'est vraiment juste un... On change les cartes. Puis
On appelle ça un retooling.
Ouais.
On refait un petit peu les choses, mais je pense que tous les signes depuis cet été indiquent que les Canucks vont un petit peu laisser de côté Bo Horvat, Brock Besser, essayer de s'éloigner de ces deux joueurs-là. Premièrement, comme le mentionne Rick Dhaliwal, journaliste des Canucks, bien connu à Vancouver, au mois de septembre, JT Miller signe un contrat de 7 ans avec les Canucks d'une valeur de 56 millions, donc 8 millions par année, ce qui signifie comment on peut dire, un commitment à long terme avec engagement envers JT Miller. L'ensuite de ça, avec la signature d'André Kuzmenko, ben là, il commence à manquer de place
ouais.
pour les Bo Horvat de ce monde. Donc, je pense que c'est assez clair que Bo Horvat va changer d'adresse là, avant la date limite des transactions cette saison.
Avant de parler où pourrait aller Bo Horvat, j'ai envie de mettre un peu de contexte là, parce qu'on commence l'émission, on parle tout de suite des Canucks. On est à l'émission Tête d'Hockey, une émission, nous, on veut donner un peu de perspective. On veut expliquer comment les équipes se construisent, comment on prévoit à long terme. Et les Canucks, c'est une des équipes là, qu'on voit dans le bas du classement. Ils ont quand même des bonnes chances pour la loterie du repêchage. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. On décide de vous parler des Canucks aujourd'hui, mais des équipes de bas de classement comme les Ducks d'Anaheim, les Blackhawks de Chicago, il y a les Blue Jackets de Columbus aussi ont des bonnes chances pour le prochain repêchage. Donc, c'est sûr que vous allez entendre parler de ces équipes-là, même si, ici à l'émission, on a nos équipes favorites. Moi, j'y vais avec le petit classique canadien de Montréal. On va, entre autres, vous parler de comment ça s'est passé la semaine dernière, la semaine qui vient de passer. Et on va aussi, bien sûr, parler de ton club, Raphaël, les Devils du New Jersey. Comme on a l'habitude maintenant de le faire, on va faire les étoiles de la semaine et t'as été bien heureux de voir 2 joueurs de ton équipe. On en parlera plus tard. On revient un peu sur Bo Horvat. Où le vois-tu? Moi, j'ai noté Boston, New York, finalement avec les Rangers. Sinon, à Pittsburgh, toi?
Je vais un petit peu en parler un petit peu plus tard lorsqu'on parlera justement des rumeurs là, pour la date limite des transactions. Ouais. Mais moi, mon choix pour Bo Horvat, c'est les Hurricanes de la Caroline. Puis c'est pour une raison très spécifique que je discuterai tantôt.
Parfait.
Tout à l'heure. Donc, si on continue avec nos nouvelles, on a Josh Norris, l'attaquant des Sénateurs d'Ottawa.
Le centre numéro 1.
Ouais, on peut dire ça, qui a rempiré sa blessure à l'épaule. Il s'est blessé, dans le fond, lui, cette saison, au 5e match de la saison des Sénateurs, le 18 janvier. Semble être en pleine forme pour effectuer un retour au jeu. Joue 3 matchs, remplir son épaule. Donc, sa saison est maintenant terminée. Un peu à la Max Pacioretty qu'on
en parlait la semaine dernière.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc, un joueur là, que la saison dernière a marqué 35 buts, a ajouté 20 assists pour 55 points en 66 matchs. Un bon jeune joueur que cette année a seulement réussi à avoir 2 buts et une passe en 8 parties. Donc, c'est un peu plate. Une des raisons pourquoi les Sénateurs sont encore une fois dans le bas-fond cette année. Mais les Sénateurs, c'est une équipe qui a beaucoup de talent jeune, donc ça m'étonnerait pas qu'on les voit leur monter la pente dans les prochaines années.
Ben, j'ai trouvé ça un peu décevant parce que cet été, il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements de personnel, entre autres à Ottawa, il y a aussi eu Détroit, il y a eu beaucoup d'échanges qui ont fait en sorte qu'on s'est dit peut-être qu'il y a des équipes qui vont... faire mieux performer que les années d'avant, et les Sénateurs avec Claude Giroux, avec Alex DeBrincat, avec les joueurs qui avaient déjà en leur possession comme Thomas Chabot, comme Josh Norris, lui qui en est un bon, sinon on a Drake Batherson, on a Shane Pinto qui est une recrue. Et du côté d'Ottawa, ça fonctionne pas. Le seul indicateur que j'ai vu qui allait bien, c'est l'avantage numérique. On est quatrième dans la Ligue nationale. La dernière partie que j'ai regardée des Sénateurs était très puissant. Ben, la dernière partie contre les Canadiens, très puissant au niveau de l'avantage numérique. On est capable de s'installer et surtout, on capitalise. Mais on participe probablement pas aux séries cette année. On a de la difficulté devant le filet, c'est assez particulier. On est allé chercher Matt Murray qui a été blessé lui aussi.
Puis maintenant, il est rendu avec les Leafs en plus, donc il a pas été longtemps avec les Sénateurs.
C'est vrai. Et là, on a Forsberg maintenant aussi. J'ai l'impression, je vois des similitudes avec Ottawa puis avec Toronto qui cherchent un peu. On peut faire un parallèle aussi avec Edmonton qui ont pas nécessairement des gardien, passez-moi l'expression, à tout casser. Là, on avait Smith dans les séries. Non, c'était pas Smith.
Ouais,
c'était
Smith l'année passée. Présentement, on a Skinner et Jack Campbell.
Skinner qui est quand même pas pire.
Ouais, qui fait le travail. Ça va être utile pour les Oilers en série. Mais en effet, je suis d'accord avec ton point là, qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont pensé qu'ils allaient prendre un step cette saison, que ça n'a pas nécessairement été le cas. Une de ces équipes-là, les Blue Jackets de Columbus, cette semaine, une petite soirée cocasse, là, si on veut, à Calgary, dans le fond, c'était le retour de Johnny Gaudreau, l'attaquant superstar des Blue Jackets de Columbus, qui a joué avant cette saison avec les Blue Jackets, a joué l'entièreté de sa carrière avec les Flames de Calgary, on se rappelle bien, et puis ça a été une soirée assez intéressante. J'ai regardé la partie de mon côté, puis Johnny Gaudreau qui a bien fait, 2 assists dans la victoire des Blue Jackets en prolongation, 4-3 sur un but de Kent Johnson. Mais le retour a été souligné par un tir de pénalité en début de match pour Johnny Gaudreau.
J'ai envie de dire, le destin fait bien les choses.
Exactement.
Les gens qui ont pris leur billet s'attendaient probablement pas à ça. Et on a réécouté la séquence tantôt. Moi, je me suis dit, voyons, l'arbitre a voulu que ça arrive, mais c'était bel et bien mérité. Johnny Gaudreau qui a raté le filet de ce tir-là.
Il n'a même pas été capable de... le filet à la droite de Vladar. Donc, même pas 5 minutes dans la partie, donc ça l'annonçait bien les choses pour le restant de la partie, comme je l'ai souligné, Johnny Gaudreau qui finit la partie avec 2 assists.
C'est difficile pour lui cette saison-ci, hein?
Ben, Gaudreau, individuellement, a une bonne saison cette année avec les Blue Jackets. Par contre, l'équipe en général n'a pas une bonne saison. Manque de profondeur,
c'est
trop de jeunesse.
C'est la défensive, hein, j'ai l'impression.
Je pense que la défensive n'aide pas. Johnny Gaudreau, cette saison, qui a 13 buts, 35 passes pour 48 points en 50 parties. Donc,
c'est bon.
Il, il, est pratiquement point par match, ouais. mais tu sais, faut pas oublier l'année passée non plus qu'il a fait 115 points en 82 parties avec une équipe des, avec, tu sais, avec les Flames
une
de Calgary
de
qui ont, oui, sans vouloir faire de jeu de mots, ouais. Une équipe qui a été complètement, là, anéantie cet été, avec la perte de Matthew Tkachuk, avec la perte de Johnny Gaudreau.
Pour toi, cet échange-là, avec les Panthers, je parle de l'échange Tkachuk contre Huberdeau, mm-hmm. ça a pas été avantageux du côté de Calgary?
Ben, Huberdeau a une saison extrêmement difficile. Ouais. On pensait vraiment là du côté des Flames.
Kadri aussi.
Oui, mais Kadri, c'est plus un c'est pas nécessairement un joueur que j'ai l'impression qu'il va nécessairement mettre l'équipe sur son dos. Je pense ouais. que c'est plus un bon joueur de deuxième trio. Jonathan Huberdeau, la saison dernière, qui a 115 points en 80 parties, cette année en a seulement 33 en 47. Donc, on voit une régression du côté ouais. de Jonathan Huberdeau.
Ouais.
Je pense qu'avant de peser sur le bouton panique, on peut attendre un petit peu avec Jonathan Huberdeau. Des fois, c'est quand ça fait tellement d'années que t'es avec une équipe, t'arrives à quelque part de nouveau, ça peut prendre une certaine période d'adaptation, mais...
Je vais y aller pour le petit commentaire de passer de la Floride à Calgary. C'est pas facile!
Exactement. Non, exactement. Donc, c'était un super beau moment. J'ai trouvé, on a eu aussi un moment là, sur l'écran géant à Calgary où on a présenté un petit hommage là, à Johnny Gaudreau.
Est-ce que je me trompe ou il a pas regardé le tableau indicateur?
Il a pas regardé le tableau indicateur, mais il s'est levé, il a salué la foule. Et puis après avoir applaudi pendant une bonne minute, les fans de Calgary sont retournés à leur...
l'ont hué à chaque fois qu'il y avait la rondelle.
À chaque fois qu'il touchait la rondelle. Donc c'était un moment assez intéressant à Calgary. En parlant de super vedette de la Ligue nationale,
oui.
On a Austin Matthews
ouais.
qui a subi une entorse au genou.
Ça, c'est
cette
un
semaine.
Peu difficile. Je l'ai dans mon pool, là, puis ça fait mal, quoique c'est durant un peu la pause du match des étoiles.
Absolument. Exactement. On parle d'une absence de 3 semaines pour Austin Matthews.
Ouais.
Techniquement, devrait pas manquer plus que peut-être 4, 5, 6 parties, dépendant de comment le calendrier des Leafs là, se place. Mm-hmm. Mais en plus, comme tu dis, avec la semaine du match des étoiles, disons que c'est un mal pour un bien pour les Leafs. Ça tombe bien.
Ouais.
Donc, de ce côté-là, on va garder le là-dessus. Mais ça ne devrait pas être dramatique. On espère que ça ne se rempire pas pour Austin Matthews, comme d'autres joueurs qu'on a vus. En poursuivant nos nouvelles cette semaine,
ouais.
On y va avec les 3 étoiles, comme,
oui.
comme on le fait à chaque semaine.
Allons-y.
Une grosse semaine pour les Devils du New Jersey cette semaine. Puis mm-hmm. je dis ça étant le plus objectif possible. Quand on regarde, quand on regarde les marqueurs dans la Ligue cette semaine, il y a 2 joueurs des Devils au sommet du classement.
Mais avant de parler de tes chers
exactement,
Devils.
Exactement, on va commencer avec la 3e étoile de la semaine.
Ouais.
On y va avec David Pastrnak, qui a déjà été une des 3 étoiles dans les dernières semaines. Mais on le connaît, David Pastrnak a une menace en offensive à chaque match.
Ouais.
Faut tout le temps garder son œil dessus. On parle de 3 buts, 5 assists pour David Pastrnak cette semaine, donc 8 points. Une excellente semaine encore pour David Pastrnak, qui, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, joue pour les Bruins de Boston, qui affrontent les Hurricanes de la Caroline ce soir. C'est maintenant 3-1 pour les Hurricanes.
Ah.
Seth Jarvis a marqué pour donner l'avantage aux Bruins 3-0. Et puis Pavel Zacha, l'ancien des Devils, a enfilé son 10e de la saison pour rendre ce match-là 3-1.
Seth Jarvis pour donner l'avantage aux Hurricanes.
Oui, absolument.
Donc les Hurricanes qui vont peut-être faire perdre les Bruins pour une 3e fois de
ouais.
suite. Et si vous nous écoutez que pour vous le hockey, ça vous allume pas, eh bien, avec les Bruins de Boston cette saison, ça devrait vous allumer. Les Bruins qui ont une saison tout à fait spectaculaire, ils vont, si la tendance se maintient, battre le record de points en une saison. Ils ont battu un record de un certain point. Là, ils arrivent proche de la 50aine de parties. Je rappelle qu'il y a 82 matchs dans une saison. Donc, on va continuer de les suivre. Si tu veux, ma prédiction, c'est sûr qui vont dépasser les 100 points, donc plus que 50
absolument,
victoires.
Absolument.
Mais c'est à suivre du côté de Boston. Dernière année de ce qu'on raconte, là, dernière année de Patrice Bergeron, dernière année de David Krejci, on a une prochaine génération qui tranquillement pas vite prend sa place, comme Pasternak. On a des gardiens de but assez pas nécessairement imposants, mais qui font le travail. Absolument. Du côté de Boston.
Absolument.
On a une défensive entre autres avec Charlie McAvoy,
aussi. Il y a beaucoup de joueurs intéressants chez les Bruins, puis la réalité, c'est que je pense pas qu'ils sont aussi bons que leur fiche l'indique, mais pour avoir regardé les Bruins jouer, c'est une équipe qui joue un système, puis qui joue son système extrêmement bien. Donc j'ai hâte de voir cette équipe-là en série. Je pense que c'est une équipe qui peut définitivement faire du dommage puis se rendre loin, mais sur papier, je pense pas que les Bruins de Boston ont un des meilleurs line-up de l'histoire moderne.
Qu'ils vont pas gagner la Coupe Stanley.
Présentement, ça serait mon choix pour gagner la Coupe Stanley. Oh. Je veux dire, je pense que c'est le choix logique, mais la réalité, c'est quand je regarde cette fiche-là,
ouais,
versus, exemple, le line-up du Lightning il y a quelques années, quand ils ont gagné, puis qu'ils ont finalement perdu en première ronde contre les Blue Jackets, hein, on s'en rappelle. Je pense pas que l'alignement des Bruins est meilleur que cet alignement-là, mais la réalité, c'est que sur papier, le hockey, ça joue sur la patinoire, puis les Bruins jouent extrêmement bien, ont un système très efficace, donc à suivre, mais c'est vraiment une équipe incroyable cette année, là.
Je la retiens, celle-là. Les stats, c'est sur papier, mais le hockey, ça joue sur la glace. On a plein de choses à vous parler. Je pense qu'on va être obligé de rétrécir le programme. On continue sur le top 3. On a parlé de David Pasternak et on s'est un peu enfargé en parlant des Bruins de Boston. On va parler de tes chers Devils qui ont eu beaucoup de plaisir cette semaine à revenir de l'arrière, entre autres. On en a parlé ensemble en direct.
Absolument.
Entre autres contre les chevaliers dorés de Las Vegas, les Golden Knights, qui se sont inclinés en prolongation contre Jack Hughes et Dougie Hamilton. Là, je vole un peu le punch.
On va
commencer avec Jack Hughes.
Oui, Jack Hughes, la deuxième étoile de la semaine, avec 4 buts, 4 assists, donc 8 points cette semaine en 4 parties, dont un but en prolongation.
Ouais.
Vendredi soir, contre les Stars de Dallas, à Dallas, les Devils finissent leur semaine là, avant la pause du match des étoiles de toute beauté, avec une belle victoire contre une des meilleures équipes de la conférence de l'Ouest, les Stars de Dallas.
Ouais.
Puis aussi Jack Hughes, comme Félix l'a mentionné, qui a fait une passe là, tout simplement incroyable à Dougie Hamilton en prolongation contre les Golden Knights de Las Vegas, plaqué sur le côté de la bande, la passe du revers pendant qu'il est à genoux à Dougie Hamilton qui réussit à marquer.
Ça me fait un beau segment pour parler de notre page Instagram Tête de hockey.
Oui.
Allez vous abonner, c'est Tête au pluriel de hockey en un mot. Et durant la pause de la musique, on va repartager cette passe-là du Jack Hughes qui est vraiment exceptionnelle. Quand c'est arrivé sur le moment, il y a des commentateurs qui ont dit c'est une des meilleures passes que j'ai vues de ma carrière d'analyste. J'ai trouvé ça un peu exagéré, mais c'est vraiment une belle pièce de jeu. Comme tu l'as dit, Jack Hughes qui a fait une belle passe à la première étoile de la semaine, et je te laisse le nommer.
Monsieur Dougie Hamilton. Dougie! Le défenseur des Devils.
Le géant.
Oui, 6 pieds 6, 215 livres, donc laisse pas sa place. On parle de 3 buts, 5 assists pour 8 points cette semaine pour Dougie. Mais la spécification qu'il faut faire, c'est que les 3 buts de Dougie Hamilton cette semaine, c'était des buts énormes. On parle de 2 buts en prolongation pour gagner les parties pour les Devils. Puis, dans la partie contre les Golden Knights, Dougie Hamilton a compté avec environ 1 minute restante dans la partie pour égaliser le match.
J'ai envie de dire un but un peu facile, un peu chanceux.
Un but un petit peu chanceux, mais au hockey, on crée sa propre chance. Donc, moi, je vois vraiment ça comme un balancier, mais dans tous les cas, un but pour égaliser la partie, puis un boulet de canon en prolongation pour gagner la partie pour les Devils. Donc,
voilà.
On résume les 3 étoiles de la semaine en 3e position. David Pasternak des Bruins de Boston. Jack Hughes, numéro 2 des Devils du New Jersey. Et puis, Dougie Hamilton, la première étoile de la semaine, défenseur des Devils avec 8 points en 4 matchs.
Et voilà, on va y aller en musique avec la chanson « Dans le jus » de Lisa Leblanc, parce qu'on est véritablement dans le jus. pendant que la chanson joue, je vous invite à prendre votre téléphone ou votre ordinateur, si vous êtes plus vieux jeu, à aller nous suivre sur Instagram pour ne rien manquer des trucs qu'on essaie de vous montrer. Vous pouvez nous écrire, on va vous répondre. Et ben voilà, on continue jusqu'à 8h pour Tête de hockey. Vous écoutez Tête de hockey sur les ondes de Chiz 94.3.
but the hamsters did.
C'était Lisa Leblanc avec la chanson Dans le jus, parce qu'on a énormément de choses à vous parler aujourd'hui. Félix Duchesne en compagnie de Raphaël Côté-Rioux à l'animation de l'émission Tête de hockey à tous les dimanches de 7 à 8 heures. On vous parle justement de hockey. On vous a rappelé entre autres que les Remparts ont gagné 2 à 1 en prolongation face aux Islanders de Charlottetown, et on vous a parlé beaucoup de Ligue nationale de hockey, entre autres des Canucks. On a décidé cette semaine de vous parler des Canucks, et on va vous parler des rumeurs d'échange maintenant, avant d'y aller pour la pause publicitaire, des joueurs comme Bo Horvat qu'on a déjà mentionné, Timo Meier, Eric Karlsson qui a une pas pire saison, et aussi Mr. O'Reilly, le capitaine des Blues. Je me trompe pas en disant ça, capitaine des Blues, O'Reilly?
Tu te trompes pas.
Donc, on va commencer avec Bo Horvat, lui aussi capitaine de son équipe à Vancouver. Il est sur la, il est bientôt sur un départ.
Ouais, absolument.
Qu'est-ce qui se passe là du côté de Bo Horvat, et surtout qu'est-ce que Vancouver va décider de faire?
Ben, Bo Horvat a une excellente saison avec les Canucks. La réalité, c'est que tu peux seulement garder
c'est leur meilleur joueur,
quelques joueurs. Cette saison, je dirais que oui. Une saison assez exceptionnelle selon ses standards.
Ouais.
T'sais, Bo Horvat, je le vois comme un joueur de 60-70 points, un bon deuxième joueur de centre. Mais la réalité, c'est que les Canucks, ils ont fait des choix. Choisi de garder JT Miller. On veut faire de la place aussi pour Pedersen, qui va bientôt devoir avoir un nouveau contrat. Donc, Bo Horvat se fait montrer la porte chez les Canucks. On n'oublie pas que la date limite des transactions cette saison, ça s'en vient là, assez rapidement. Là, c'est le 3 mars 2023, donc dans un petit peu plus d'un mois.
C'est bien de le rappeler. Moi, j'ai envie de te demander, puis je vais te le demander pour chaque joueur qu'on parle, qu'est-ce que les Canucks peuvent demander contre Bo Horvat, d'après toi?
Selon Jeff Marek de Sportsnet, qu'on connaît bien, qui fait le podcast 32 Thoughts avec Elliot Friedman,
exact.
Les Canucks cherchent à recevoir 3 joueurs pour Horvat, incluant un top espoir, si on veut, ou un espoir d'impact.
Une recrue.
J'ai hâte de voir s'ils vont être capables d'avoir ça.
C'est beaucoup quand même.
C'est beaucoup, mais j'ai l'impression qu'une équipe qui veut vraiment Bo Horvat va être prête à donner ça. Puis j'ai aussi l'impression que ce retour-là, ça l'insinue à un Bo Horvat qui est signé à une extension.
Mm-hmm.
Je m'attends pas à ce que un emprunt ou un rental, comme on dit dans le monde du hockey, que l'équipe qui va aller chercher Bo Horvat l'aurait pour seulement quelques mois pendant les séries, puis ensuite de ça, Bo Horvat va aller jouer ailleurs. Je pense pas que c'est un scénario qui est réaliste. Je pense que Bo Horvat va être échangé avec une extension de contrat vers sa prochaine équipe. Puis moi, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'équipe que j'ai à l'œil pour Bo Horvat, c'est les Hurricanes de la Caroline.
Parlait des déboires là, des Canadiens dans les dernières années, de leur façon de gérer. On parlait de ça avant que l'émission commence, parce que j'étais frustré de voir que des fois, il y a des contrats qui pèsent, il y a des contrats qui coûtent cher, des joueurs qui sont blessés, qui jouent pas. Je dirais pas de nom, mais il y a des joueurs qui coûtent cher. Et entre autres, dans les mauvais moves du Canadien, de repêcher Kotkaniemi, c'est particulier. Là, les Hurricanes sont allés le chercher. C'est leur centre de deuxième trio. Je trouve que c'est beaucoup d'espoir envers notre cher Jesperi Kotkaniemi. Et toi, tu penses que Horvat pourrait le remplacer?
Absolument. Kotkaniemi, on se le cachera pas, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est présentement dans sa carrière, il est encore très jeune. Selon moi, c'est pas un joueur de top 6. Je pense pas que les Hurricanes peuvent se permettre d'aspirer à la Coupe Stanley avec Jesperi Kotkaniemi comme leur deuxième joueur de centre.
Je suis d'accord.
Donc, Bo Horvat, c'est vraiment une cible parfaite pour les Hurricanes.
Ouais.
Un joueur qui est capable de jouer sur leur premier avantage numérique, de jouer sur le deuxième trio, qui est gros, qui a du gabarit. Ça fait glisser tout le monde, dans le fond.
Ouais.
Ton joueur de centre de deuxième ligne devient ton joueur de centre de troisième ligne. Kotkaniemi, dans un...
C'est plus sa grandeur de soulier, absolument, surtout
présentement dans sa carrière, à ce stade-ci, Kotkaniemi, un centre de troisième ligne, ça pourrait l'aider, ça l'enlève un peu de pression, ça le fait jouer contre des match-ups un petit peu plus faciles.
Ouais.
Donc, moi, je pense que ça serait une super acquisition pour les Hurricanes de la Caroline. Je leur souhaite pas nécessairement parce qu'ils sont dans la même division que mes Devils, donc on verra bien, on verra bien qu'est-ce que ça donne, mais ouais, ça serait une super acquisition pour une équipe qui cherche un deuxième joueur de centre.
Parfait. Je vois le temps qui file, on va y aller pour une pause publicitaire. On va continuer là, sur les joueurs qui ont des bonnes chances de changer d'adresse d'ici la date limite des transactions ou à la date limite des transactions. Tu l'as rappelé, c'est le 3 mars. Le mois de février s'en vient cette semaine, donc
exact.
Il reste pas beaucoup de temps avant de faire des moves, comme on dit. On y va en pause publicitaire. Vous écoutez Tête de hockey à Chiz 94.3.
On survit, on esquive les coups de matraque jusqu'à temps qu'on soit écho, plongeons le monde ou black. Hey yo, appelle-moi la DM, c'est chaud.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Vous sortez pour faire la fête? Alors planifiez votre retour. Nommez un conducteur désigné, appelez un taxi ou un ami sobre, ou encore passez la nuit chez vos amis. Pas de plan pour le retour? Alors vous devrez passer au plan B et à la liste suivante. 1. Rédigez votre propre annonce nécrologique. 2. Rencontrez un directeur de funérailles. 3. Dire adieu à tous ceux que vous aimez. 4. Finalisez votre testament. Et 5. Donnez vos biens, vos vêtements, votre voiture, même votre maison. Si vous planifiez de consommer, planifiez de ne pas conduire. Un message des maires contre l'alcool au volant.
De retour à Tête de hockey sur les ondes de Chiz 94.3. Mon nom est Félix Duchesne, je suis en compagnie de mon co-animateur
Raphaël Côté-Rioux.
Et oui, et à tous les dimanches de 19h à 20h, on vous parle de hockey, surtout de la Ligue nationale. Il y a des fois où on va parler de d'autres ligues, entre autres des Remparts, parler des joueurs d'avenir, parce que c'est notre angle ici à Tête de hockey. On essaye justement de vous faire une tête sur les futurs joueurs, sur comment est-ce qu'une reconstruction ça se fait. On va vous parler d'un nouveau segment qui s'appelle le Tankathon, je sais pas comment on peut le dire en français, parce que l'expression le tanker, c'est vraiment le bon terme, et restez avec nous parce qu'on vous en parle dans 5 minutes à peu près. On va terminer notre segment sur les échanges potentiels à venir d'ici la date limite de transaction ou à la date limite des transactions. On vous a parlé de Bo Horvat, le capitaine des Canucks de Vancouver, qui va changer d'adresse. Je pense que c'est pas mal inévitable. Mm-hmm. Il reste à voir contre quoi il va pouvoir être acquis d'une équipe. On imagine qu'il va joindre les rangs d'une équipe qui va faire les séries. Je pense que c'est inévitable.
Absolument.
Je pense pas qu'il va s'en aller pour une reconstruction. Donc à suivre, tu as parlé des Hurricanes de la Caroline qui pourraient t'intéresser. Ton prochain joueur, il y a une saison quand même surprenante. C'est un défenseur qu'on a bien connu à Ottawa. On l'a connu pour sa vitesse, son côté offensif. Il y a jamais eu vraiment... il y en a eu des très bonnes saisons, mais là, cette année, c'est particulier. Je te laisse le nommer, je te laisse le présenter, parce que je pensais pas le voir dans la liste des échanges potentiels. Explique-moi pourquoi. Nomme-le premièrement.
Le défenseur Erik Karlsson, ouais, des Sharks de San Jose. Les Sharks risquent d'être une équipe assez active là, pour la date limite des transactions. C'est une équipe qui est 100% en reconstruction. Ouais. Ils se le cachent même pas. Mais c'est une équipe qui ont des joueurs assez vieux, mais des joueurs qui pourraient être très intéressants pour d'autres équipes.
C'est un peu triste, hein, le cas des Sharks. Tu parles de reconstruction, ils n'ont jamais vraiment été loin en série. Ils ont la malédiction de gagner le trophée du président, c'est-à-dire avoir une bonne saison régulière, être pas bon en série.
Ouais, c'est une équipe qui s'est rendue en finale contre les Pingouins il y a quelques années, qui a perdu contre les Pingouins.
Je me rappelais même pas.
Ouais, exact, on l'oublie souvent, mais ouais, ils se sont rendus en finale contre les Pingouins il y a quelques années. C'est une équipe qui semble faire les séries assez facilement, avoir des saisons régulières du tonnerre, voilà, depuis quelques années. Depuis quelques années, ça commence à s'effriter, mais on se rappelle de leurs bonnes années. C'est une équipe qui aurait... À mon humble avis, aurait probablement dû gagner une Coupe Stanley dans ces années-là, parce que c'est une équipe qui avait beaucoup de talent. Logan Couture, Joe Thornton, Patrick Marleau,
Erik Karlsson aussi, Brett Burns.
Ouais, exactement. C'est une équipe qui avait beaucoup de talent. Mais Erik Karlsson, qui a une saison, là, tout simplement extraordinaire pour les Sharks. On parle de 66 points en 51 matchs pour un défenseur. C'est absolument. Honnêtement, c'est incroyable. Personne s'attendait à ça. Eric Karlsson, l'année dernière, qui a fait 35 points en 50 matchs. L'autre année d'avant, 22 points en 52 matchs. Un excellent défenseur qui a gagné le trophée Norris en 2011-2012 et 2014-2015 avec les Sénateurs, mais qui a jamais réussi à atteindre ce niveau-là avec les Sharks. Mais cette année-là, ouf!
Mais là, toi, tu vois ça aller et tu te dis ben c'est la première pièce qui va partir pour finalement entamer la reconstruction?
Je pense que oui, on entend beaucoup de rumeurs autour de lui. C'est un joueur qui a un contrat encore là pour les 4 prochaines années les Sharks de San Jose à 11,5 millions par année.
C'est beaucoup d'argent.
Oui, absolument, mais une équipe qui voit sa fenêtre de contention, si on veut, ou qui a espoir d'aspirer à la Coupe Stanley dans les prochaines années, c'est une bonne pièce à ajouter. Ouais. Puis c'est pour ça que l'équipe que j'ai sur mon radar pour Eric Karlsson, c'est le Kraken de Seattle.
Eux aussi qui ont une saison impressionnante.
Absolument, le Kraken de Seattle qui se retrouve au premier rang de la division Pacifique de la Ligue nationale, un point au-dessus des Golden Knights de Vegas qu'on a discuté un petit peu tout à l'heure. Ouais. Mais la réalité, c'est que la raison pourquoi le Kraken a une excellente saison, c'est au niveau de leur offensive. Mm-hmm. On a déjà parlé qu'ils étaient beaucoup au-dessus de leur métrique de « expected goals », entre guillemets. Mais la réalité, c'est que la défensive du Kraken, c'est pas très joli. Quand ta première paire à la défensive, c'est Vince Dunn puis Adam Larson. Ta deuxième paire, c'est Jamie Oleksiak puis William Borgen. Je pense que t'aurais peut-être besoin d'un petit...
Regarde Adam Larson, Jamie Oleksiak puis Carlson Soucy, ce qu'ils ont de leur côté, c'est qu'ils sont immenses.
Oui, puis c'est de la défense aussi. Ils ont personne vraiment pour être le corps arrière sur l'avantage numérique. Eric Karlsson, c'est un gars qui arrive, ça devient automatiquement non seulement ton meilleur défenseur offensif, mais potentiellement le meilleur joueur offensif de ton équipe. Ouais. Je pense vraiment que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Le Kraken ont des espoirs. Si le Kraken pense que leur fenêtre pour se rendre loin en série, avoir un impact, c'est dans les prochaines années. Je stipule, mais peut-être qu'un joueur comme Shane Wright pourrait être sur la table. On parle de joueurs, joueurs d'impact. C'est sûr que là, si on donne un Shane Wright, on s'attend peut-être qu'il y a d'autres choses. On s'attend peut-être que les Sharks de San Jose prennent un petit peu une partie de ce contrat, du contrat à Eric Karlsson, on s'entend, mais tout ça pour dire que le Kraken ont potentiellement les pièces pour que cet échange-là arrive. Donc, à suivre de ce côté-là, mais c'est un dossier très intéressant, Eric Karlsson, parce que c'est pas un agent libre. Là, il reste des années à son contrat, donc à suivre. En parlant des Sharks, c'est des agents libres.
Il y a une autre pièce maîtresse, pas maîtresse, parce que Timo Meier, c'est pas le joueur le plus important des Sharks, mais c'est quand même une pièce importante de leur équipe.
Oui, c'est le meilleur attaquant des Sharks.
Ah oui?
Absolument, absolument.
Moi, j'aurais dit peut-être le numéro 48, Thomas Chertow.
Non, je préfère Timo Meier, honnêtement. Si on regarde là, les statistiques cette saison des Sharks, on a Eric Karlsson, bien évidemment, comme j'en ai parlé.
Logan Couture a une bonne saison. Oui, quand même.
On a Timo Meier avec 48 points en 51 matchs et on a Thomas Hurdle avec 43 points en 49 matchs. Mm-hmm. La différence aussi, c'est que Thomas Hurdle est un peu plus vieux que Timo Meier. Ouais. Timo Meier, qui vient d'avoir 25 ans, qui est une cible extrêmement intéressante.
L'an passé, a compté 5 buts en un match, si je ne me trompe pas.
Si je ne me trompe pas, oui. C'est un gros gars, 6 pieds 1, 220 livres. Mm. C'est un attaquant de puissance qui est capable de marquer des buts. C'est un excellent joueur de top 6. Puis l'équipe que j'ai en tête pour un Timo Meier, c'est les Devils du New Jersey. Ouais. Puis c'est pas sorti de nulle part, c'est des rumeurs qui circulent. Elliot Friedman de Sportsnet, qu'on a mentionné tantôt avec Jeff Marek, qui mentionne que les Devils sont présentement les favoris pour aller chercher l'attaquant suisse. Il y a une certaine connexion suisse aussi. On parle de Nico Hischier, le capitaine des Devils qui est suisse, qui a joué avec Timo Meier là au championnat mondial à plusieurs reprises. On parle aussi de Jonas Siegenthaler, le défenseur top 4 des Devils, qui est suisse aussi. Y a définitivement quelque chose qui se passe de ce côté-là entre Timo Meier et les Devils.
Toronto était dans la discussion aussi, je crois?
Je pense que oui. La réalité, par contre, c'est que je pense pas que Timo Meier peut nécessairement supporter ce contrat-là. peut, je pense pas que les livres sont la masse salariale où on l'espace pour pouvoir aller chercher Timo Meier avec une extension. Les Devils, oui. Les Devils ont des bons prospects aussi qui sont définitivement sur la table pour...
Qui laisserais-tu partir pour Timo Meier?
Alexander Holtz. Okay. On parle de Shakir, Mukamadou Lin aussi. Le choix de première ronde est sur la table définitivement. Puis en toute franchise, je vois pas beaucoup d'équipes qui sont capables d'un, que c'est une option réaliste côté salaire.
Ouais.
De deux, qui sont capables de venir matcher là, cette offre-là des Devils. Donc, c'est à suivre, mais je pense vraiment qu'il y a une possibilité que Timo Meier soit un Devil avant la fin de la saison, puis pour les huit prochaines années aussi, parce que je pense pas qu'il va se faire échanger sans une extension de contrat lui non plus.
Et toi, d'aller chercher Timo Meier pour l'ajouter à l'alignement des Devils, c'est quand même, ça veut dire que là, la course aux séries est pas juste entamée, on va pour la Coupe cette année.
Ben, c'est d'une certaine façon, oui, mais tu sais, quand tu vas chercher un joueur de ce gabarit-là, si on veut, c'est puis que tu vas le chercher pour les huit prochaines années aussi, c'est pas juste pour cette année. Okay. La réalité, c'est que c'est un joueur qui fit extrêmement bien dans les plans des Devils pour les huit prochaines années. Tu sais, le top 6 des Devils avec un Timo Meier.
Plutôt petit en ce moment avec Ishir, avec Hughes, avec Bratt.
Ouais, c'est pas Hughes, des joueurs, Hughes, Bratt, mais... c'est des petits joueurs. Ishir, c'est un joueur qui est capable d'être physique, mais quand tu ajoutes à ton top 6 un joueur comme Timo Meier, c'est très impressionnant. La première ligne des Devils, présentement, on regarde à Andrei Palat, Nico Ishir, Jesper Bratt. La deuxième ligne, on regarde Eric Halla, Jack Hughes, puis Dawson Mercer. La réalité, c'est que remplacer un gars comme Eric Halla sur ton deuxième trio par Timo Meier, baisser Halla sur la troisième ligne, ça l'aide beaucoup. Ça l'ajoute beaucoup à ta profondeur. Donc, je pense que les Devils sont vraiment une belle possibilité là, pour Timo Meier. Il y a plein, sur plein de niveaux. Là. Donc, à suivre de ce côté-là.
Et comme tu le disais, ils peuvent se le permettre.
Exactement, ils peuvent se le permettre. Malgré que Jesper Bratt a besoin d'un nouveau contrat aussi. Ouais. Les calculs fonctionnent. Il y a beaucoup de joueurs des Devils qui s'en vont après cette année. Qu'on parle de Thomas Tatar, Damon Severson, Ryan Graves. Qu'on
c'est
pas
fini
s'il
pour,
va revenir.
Pour tout ce monde-là?
Ben, je pense que Graves pourrait potentiellement rester. Okay. Peut-être Tatar aussi pour un rôle dans le bottom six. Mais ce pas des joueurs qui vont... Thomas Tatar fera pas le salaire qu'il a signé il y a deux ans. Il va descendre. Même chose pour Severson, je pense pas qu'il va revenir, mais à suivre beaucoup de dossiers.
Thomas Tatar, on l'avait beaucoup aimé à Montréal, en tout cas. On va parler de Ryan O'Reilly, lui aussi, qui pourrait changer d'adresse. Il est présentement à Saint-Louis avec les Blues. Depuis qu'ils ont gagné la Coupe Stanley en 2019, on dirait que les Blues sont bons, mais il manque un petit quelque chose. On a Vladimir Tarasenko qui est un très, très bon joueur, mais qui n'est pas aussi dominant qu'il était. Ryan O'Reilly aussi a perdu plusieurs plumes. Devant le filet, on a... je ne veux pas trop m'étendre là-dessus.
Le flamboyant
là,
Jordan
Bennington qui est... je ris parce que cette semaine, a failli se battre après un sifflet. Puis c'est pas la norme de voir ça d'un gardien de but. Habituellement,
c'est la norme.
Ils sont plus réservés, mais oui, comme
avec
tu le dis.
Avec lui, c'est la norme.
Donc, du côté des Blues, assez particulier. Puis là, on laisserait partir Ryan O'Reilly?
Il y a des rumeurs qui circulent. Ryan O'Reilly, c'est un joueur de deuxième centre. Ouais. C'est un deuxième centre qui est très responsable dans sa zone, responsable défensivement, qui est capable de compter des buts.
C'est le capitaine.
C'est le capitaine des Blues. Il a de l'expérience en série. Il a gagné la Coupe Stanley, comme tu l'as mentionné, avec les Blues en 2019. Je m'attendrai pas trop sur son cas parce que c'est un peu le même discours qu'avec Bo Horvat.
Ouais.
Moi, je vois beaucoup un fit avec les Hurricanes de la Caroline pour les mêmes raisons.
Ouais.
Je pense que c'est quelqu'un qui viendrait non seulement prendre la place de Kotkaniemi sur le deuxième trio, mais qui est aussi capable de jouer sur le désavantage numérique.
Exactement.
Qui est très responsable. Si c'est une bonne présence, un bon vétéran à avoir dans le vestiaire là, pendant les séries. Donc, ça se résume les quatre, si on veut, le trade bait, là, si on veut, de la date limite des transactions. C'est les quatre meilleures options, selon moi, présentement. Puis c'est aussi ces joueurs-là où il y a le plus de rumeurs là, qui circulent. Donc, on garde l'œil là-dessus, on vous tient au courant. La date limite, comme je l'ai mentionné, c'est le 3 mars 2023.
On y va en musique avec Last de Burna Boy. C'est une de nos chansons favorites, Raphaël et moi. On y va parce que c'est les 15 dernières minutes après, vous écoutez Tête de hockey à Chiz
94.3. I'm a me, I be a tonto. I no go feed the girl. I no go feed the girl, it's auto. I'm a mind that's really talk, oh.
I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulated my love, oh. I know holy and I know that kebo like the Baba Frayo. Soboma, I dey try to buy moto, one Toyota Corolla. My feelings been dey swing like Django Lover. Feelings been dey swing like Django Lover. Now you crash your Ferrari for Lekki Bona. Now some money remake could have been all over. My feelings still dey swing like Django Lover. Feelings still dey swing like tip tip Timbani catch you, at you. I'm a white dog in Fendi suit. Why you say I did nothing for you when if I do anything you want me to do? If I do anything you want me to do, maybe another time, maybe another life, you will be my wife and we'll get it right. Long cast, last, last. Now everybody go to breakfast. Have to say bye bye, yo. Bye bye, yo. To the love of my life. My eye, oh. Don't cry, yo. I need people and shadow.
De retour à Tête de hockey sur les ondes de Chiz 94.3. Mon nom est Félix Duchesne, je suis en compagnie de Raphaël Côté-Rioux. On vous parle de hockey, bien évidemment, avec ce titre-là. C'est le thème. On est ensemble jusqu'à 20h. Il nous reste environ une dizaine de minutes. On va conclure cette émission avec un nouveau segment. Raphaël, de quoi est-il question?
On parle du segment Tankathon, comme Félix l'a mentionné là, au début de l'émission. Tankathon, dans le fond, c'est un outil qui est accessible sur Internet, qui permet de garder le fil un petit peu sur les équipes au bas du classement, puis leur chance, selon leur position, d'avoir le premier choix au repêchage.
Parce que vous l'aurez compris, Tankathon, c'est un jeu de mots entre tank et marathon. Tank, c'est une philosophie, une façon de reconstruire son équipe. Quand on dit ce club-là est en train de tanker ou il tank, on n'a pas vraiment de meilleurs mots. On pourrait dire il s'inflige volontairement des défaites, mais on va simplifier ça en disant tanker. Ça veut dire quoi?
C'est pratiquement de mettre toutes les chances de son côté pour perdre le plus de matchs possible pour avoir les meilleures chances de repêcher haut au repêchage pour avoir les meilleurs joueurs.
Et il y a plusieurs façons de mettre les meilleures chances de son côté. On peut enlever des joueurs de son alignement. On peut finalement, si un joueur a besoin d'une opération, je fais référence à Caulfield, si un joueur a besoin d'une opération, on lui permet de le faire alors que si c'était une course aux séries, là, peut-être qu'on le garderait dans l'alignement. Il y a des pièces qui peuvent être enlevées pour que des joueurs des ligues mineures montent. Pour
échanger des joueurs. Il y a plein de façons.
Voilà. Et on va vous en parler. C'est un segment qui va revenir à chaque émission. C'est un segment aussi qui est important de suivre à travers le temps. Pourquoi, Raphaël?
Ben, parce que ça change, tout simplement. Voilà. La réalité, c'est que le classement change au fil du temps, au fil des semaines, au fil des jours. Même, c'est tellement serré dans la Ligue nationale, la parité est vraiment là.
Ouais.
Donc, c'est important de garder l'œil là-dessus. Comme Félix l'a mentionné, c'est quelque chose qu'on va garder l'œil souvent, qu'on va ramener souvent de plus en plus. On va se rapprocher vers le repêchage parce que cette année, on a un très bon repêchage. Mais la réalité, c'est qu'à l'époque, les équipes Comment ça fonctionnait là, le repêchage de la Ligue nationale? Si tu finissais dernier dans le classement, tu repêchais premier au repêchage.
Donc, aujourd'hui, le classement, c'était l'inverse du repêchage.
Exactement.
Et c'était obligatoirement
exactement.
Cette
liste-là. L'équipe qui finissait dernier dans le classement repêchait premier, voilà. Puis évidemment avait le meilleur espoir de ce repêchage-là. Mm-hmm. La Ligue nationale, pour enlever ce genre de comportement, de dire bon, ben, on fait exprès de perdre, a décidé d'instaurer une loterie il y a plusieurs années. Mm-hmm. Donc là, qu'est-ce que ça donne, c'est que l'équipe qui finit dernier a 25,5% des chances d'avoir le premier choix. L'avant-dernière équipe a 13,5% des chances d'avoir le premier choix. La troisième dernière équipe, 11,5%, etc., etc., jusqu'à temps qu'on arrive là, à un certain pourcentage qui tombe à zéro. Donc, il y a seulement là, les 11 pires équipes qui ont une chance d'avoir le premier choix au total. Puis en parlant du premier choix au total, on a eu le classement de Bob McKenzie, ouais. L'analyste de TSN qui est bien connu en ce qui a trait là, aux espoirs, qui a sorti là, exactement son classement de mi-saison pour les espoirs. Puis c'est un classement qui est toujours pertinent. Bob McKenzie, c'est exact. Quelqu'un qui a beaucoup de crédibilité dans qu'est-ce qu'il fait. Son opinion a beaucoup de poids. Puis la raison pour ça aussi, c'est que la façon dont il fait ses classements, c'est très représentatif des vraies listes des recruteurs de la Ligue nationale parce que, ben, tout simplement, quand il fait ses listes, il passe en entrevue des recruteurs de la Ligue nationale. Donc, c'est super facile de pour lui, ensuite de ça, de compiler les résultats puis de vraiment voir c'est quoi l'opinion des recruteurs autour de la Ligue nationale.
Il y a quelque chose de particulier avec ce repêchage-là, puis c'est la même chose pour les échanges, puis c'est la même chose pour les stratégies, c'est que les équipes veulent quand même garder un certain secret par rapport à ce qu'ils vont faire, mais je pense que la liste du top 5 et surtout le numéro 1, c'est pas difficile à choisir là, cette année.
Non, cette année, il n'y a pas vraiment de doute. On parle de Connor Bedard. Connor Bedard, le plus Connor McDavid depuis Connor McDavid,
voilà.
Bien honnêtement, c'est un joueur tout simplement...
Je trouve ça un peu ironique du destin de leur avoir donné le même prénom.
Ouais, non, je le sais, c'est un joueur tout simplement incroyable. On parle de 39 buts et 42 passes en 33 matchs.
39
points.
Buts en 33 parties,
plus
c'est exceptionnel.
Ouais.
Mais en plus de ça, il a fait des assists. 81 points en 33 parties, c'est phénoménal.
Exactement. Il joue pour les Pats de Regina dans la Ligue de l'Ouest. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, le savent pas, c'est l'équivalent de la Ligue junior majeure du Québec, mais dans l'Ouest canadien. C'est une saison tout simplement incroyable. Il est à 2,45 points par match.
Puis Pourquoi tu me parles de ça, c'est ça?
Ben, c'est simplement pour mettre en contexte. Connor Bedard est à 2,45 points par match cette saison. Connor McDavid, à son année de repêchage, était à 2,55 points par match.
Donc
on voit...
un peu en dessous de McDavid.
À peine. On voit que c'est vraiment ce genre de joueur-là.
Ouais.
L'équipe qui va repêcher Connor Bedard, ouais. C'est un joueur de franchise qu'ils vont avoir absolument. Mm-hmm. Puis on sait jamais qu'est-ce qui va arriver avec les joueurs, mais Connor Bedard, c'est très près d'être un sure bet dans la Ligue nationale.
Un peu inférieur à Connor McDavid, mais j'ai pas le point par match de Crosby à son année de repêchage, mais je sais que Connor Bedard était plus élevé. Mm-hmm. Donc, on a vraiment un joueur dans cette trempe-là. Bien évidemment, comme tu le dis, une fois arrivé dans la Ligue nationale, il peut y avoir des changements. Des joueurs peuvent être ce qu'on appelle des busts. Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu un bluff.
Des échecs. Des échecs, carrément. Puis, aussi important à noter que Connor Bedard, au tournoi mondial junior cette saison,
a brisé des records.
9 buts, 14 passes, donc 23 points en 7 matchs. Au-dessus de 3 points par match pour le jeune Canadien. Tout simplement incroyable. On passe au numéro 2.
Oui, parce que le temps avance.
Oui, exactement. Le coéquipier de Connor Bedard au tournoi mondial junior, on parle d'Adam Fantilli, le joueur de centre canadien qui joue présentement dans, selon moi, la meilleure ligue universitaire aux États-Unis, le Big Ten dans la NCAA. Il joue pour Michigan. Gros joueur de centre. On parle de 16 buts, 23 passes, donc 39 points en 22 matchs pour un joueur qui est éligible au repêchage cette année. C'est excellent.
Ouais.
Excellent.
Je veux juste rajouter que si Connor Bedard n'était pas dans le repêchage, Eden Fantilli serait le choix numéro 1 incontesté.
Sans l'ombre d'un doute. C'est un gros joueur, un joueur qui a du big gabarit, qui n'a pas peur d'aller dans les coins, mais qui est extrêmement talentueux.
Ça veut aussi dire que l'équipe qui se ramasse avec Adam Fantilli va faire un très bon choix.
Absolument. La comparaison d'Adam Fantilli, je vois beaucoup de comparaisons à Eric Lindros, un genre de Rick Nash, mais avec plus de patins et plus de talent offensif. Donc, on voit vraiment, c'est un gars qui a du gabarit, qui a pas peur de jouer physique, mais qui a une touche offensive, là, vraiment excellente.
Ouais. Au troisième rang, j'ai cru durant longtemps que c'était un défenseur, mais ce n'est pas un défenseur. On parle du Suédois Leo Carlson. Parle-moi un peu de ce joueur.
Ouais, Leo Carlson qui joue pour Örebro, le hockey club Örebro dans la ligue professionnelle en Suède, la SHL. C'est un joueur de centre qui peut aussi jouer à l'aile, donc il est très versatile de ce côté-là. 6 pieds 3, 194 livres dans la ligue professionnelle cette saison en Suède. A 5 buts, 13 passes pour 18 points en 31 matchs. Faut garder en tête que, exemple, un joueur comme Connor Bedard joue dans les juniors. Joue contre des joueurs de son âge, des joueurs de 17, 18, 19 ans.
Et Leo Carlson, lui, joue contre des vrais professionnels.
Oui, Leo Carlson joue dans la ligue professionnelle en Suède. Donc, 18 points en 31 matchs pour un gars de 17, 18 ans en Suède, c'est excellent. On parle de Leo Carlson, on parle un petit peu de ce que j'ai vu. Un genre de Nicklas Backstrom, mais plus un petit peu plus gros. Donc, qui va être un petit peu plus physique, mais c'est un bon passeur, responsable dans sa zone, un flair offensif très intéressant, plus un fabricant de jeu d'autres choses.
Ouais, on va enchaîner rapidement, sinon on n'aura pas le temps. Matvey Mishkov, le Russe de 5 pieds 10 pouces, 148 livres. Je pense qu'il est dans les plus petits.
Il est tout petit.
Très, très dangereux.
Extrêmement talentueux. Puis honnêtement, il est un petit peu controversé parce qu'il y a des raisons d'être un petit peu inquiet de repêcher ce joueur-là pour la simple et bonne raison qu'il joue en Russie présentement pour le SKA Saint-Pétersbourg. Et puis, il est signé jusqu'en 2025-2026. Donc, en repêchant ce joueur-là, on est sûr à 100% qu'on n'a pas accès à l'amener en Amérique du Nord pendant 2-3 ans. C'est quand même inquiétant, mais la réalité, c'est que si Matvey Mishkov jouait en Amérique du Nord, il serait sans aucun doute deuxième en arrière de Connor Bedard. Je pense que ça, selon moi, c'est très clair. C'est un joueur extrêmement talentueux. On parle d'un genre de Patrick Kane, puis c'est probablement le meilleur joueur russe à être repêché depuis Alexander Ovechkin.
Ben moi, je veux juste dire qu'en 2019-2020, alors qu'il jouait dans l'équipe de U16, donc des moins de 16 ans, en 26 parties, tenez-vous bien, il a fait 70 buts,
exact.
39 passes et 109 points. 109 points en 26 parties. J'ai pas compris quand j'ai vu cette statistique-là.
Ouais,
et on vous en parlera la semaine prochaine. On veut parler de celui qui complète le top 5.
Oui, exactement. Puis juste pour finir sur Mishkov, il y a une excellente saison dans la KHL en ce moment.
Ouais.
Puis, je viens de le mentionner, mais le meilleur joueur russe à être pêché depuis Ovechkin, puis ça, c'est malgré Malkin.
Ouais.
Donc, on voit qu'il y a vraiment un gros hype, si on veut. Il y a beaucoup d'excitation là, autour de ce joueur-là. C'est vraiment un excellent joueur. Puis, pour finir le top 5 de Bob McKenzie, on parle de Zach Benson.
Ouais. Un petit joueur, lui aussi.
Oui, le petit attaquant qui joue dans la WHL. Lui aussi, la même ligue que Connor Bedard. Mm-hmm. Par contre, il joue pour le Ice de Winnipeg. 76 points en 40 parties. C'est un petit joueur de talent. Très bon patineur, bonne capacité offensive, irresponsable défensivement. On parle d'un Braden Point, genre de Braden Point, bon coup de patin, bonne vision offensive.
Ça va faire la différence en série aussi.
Exactement, on sait que Braden Point est très clutch là, en série.
Ouais.
Donc, si on résume le top 5 là, de Bob McKenzie, en cinquième position, on a Zach Benson. Quatrième position, on a Matvey Mishkov, le Russe. Troisième position, Leo Carlson, le joueur d'attaque suédois. Adam Fantilli, le Canadien, joueur de centre, numéro 2. Et le numéro 1, sans l'ombre d'un doute, là, Connor Bedard. Donc, ça ressemble à ça présentement.
Donc, on va devoir se laisser, bien évidemment, cette semaine. À Tête d'Hockey, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'on aurait pu en parler encore très longtemps.
Absolument.
On vous a, entre autres, fait les manchettes de l'actualité de la Ligue nationale de hockey. On vous a parlé des joueurs qui pourraient se faire échanger bientôt. On verra si dans la prochaine semaine, il y a des échanges.
On garde l'œil sur le repêchage. Qu'est-ce qui se passe? Comme Félix l'a mentionné, la date limite s'en vient. Puis, le match des étoiles la semaine prochaine aussi, on pourra faire un retour là-dessus dimanche.
Ouais, ça va être assez intéressant de voir aussi finalement les étoiles. On a quelques parties qui s'en viennent. Je crois que si je dis pas n'importe quoi, à partir de mardi soir, c'est les dernières parties. Après ça, mercredi, jeudi, congé. Vendredi, concours d'habileté. Samedi, match des étoiles. Après ça, ça recommence la semaine d'après. Donc, on se retrouve dimanche prochain pour un autre Tête de hockey. Merci Raphaël, à la semaine prochaine.
Bonne semaine. We'll be right back.